Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons continuer. La dimanche dernier, nous avons commencé dans ce chapitre 4 des Éphésiens. Et nous avions vu que, justement, il nous demandait au verset 17 de ne plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais qui disait à ces chrétiens d'Éphèse, nouveaux chrétiens, hein, Paul venait de commencer cette œuvre-là, et il leur demande de maintenant qu'ils ont entendu la vérité de Jésus et qu'ils avaient été instruits à se dépouiller, à se défaire du vieil homme, hein, de l'ancienne nature, de notre ancienne manière de vivre. Il a dit, vous l'enlevez comme un vieux manteau et vous le jetez, et puis vous mettez un nouveau, hein, et il dit, vous revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu, celui que Dieu nous propose. Donc ce n'est pas une autre religion, c'est une autre vie que Dieu nous donne. Je vous lis une citation du théologien John MacArthur, hein, qui est vivant, hein, qui a écrit pas mal de livres. Mais John MacArthur, dans son introduction à ce passage, donc celui que nous allons lire là, à partir du verset 25, il dit « La seule preuve tangible de la conversion de quelqu'un n'est pas le fait qu'à un moment passé, il ait accepté Christ, mais une vie présente qui reflète la présence de Christ en lui. » Si la seule chose que je dis, quelqu'un me demande, est-ce que tu es chrétien? Je dis oui. Comment tu sais? Eh bien, il y a 15 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 3 ans, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai prié. Et alors, et depuis? Eh bien, depuis... Il dit, non, ben, si tu l'as reçu, c'est qu'il ben, vit. Hein, il faut que ça se voit. Il faut que ça soit évident. Hein, qu'il soit... dans cette vie, que sa présence soit là. S'il n'y a pas de changement, eh bien, on se demande s'il est là. Hein. Vous voyez une maison, que les volets sont toujours fermés, puis les mauvaises herbes sont montées, puis les arbres ne sont pas taillés, et la peinture est en train de tomber, et vous dites, bah, je crois qu'il n'y a personne qui habite là. Hein. C'est normal, vous avez le droit. Mais si vous voyez, tout est taillé, tout est en ordre, et tout ça, vous dites, ah, bah, là, il y a quelqu'un qui vit, et puis qui est en bonne santé. C'est pareil, notre corps, notre vie, eh bien, il faut qu'on voit la présence du Seigneur. Et il faut que ce soit, et puis ce qu'on voit, ben, ça ressemble à du travail du Seigneur. Hein, et que ça ne ressemble pas à autre chose. Alors, lisons ce passage, vous êtes dans Éphésiens chapitre 4. Et donc, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alors, il y a de quoi se nourrir là. Hein. Il s'adresse à des chrétiens. Il est pas en train de parler les gens qui sont au marché, là, ce matin, le marché de Fréjus, mais c'est en train de parler à une église, à des chrétiens. Donc, s'il s'adresse à des chrétiens, c'est que ça peut être un problème chez les chrétiens. Mais ça ne doit pas rester un problème. Et alors, l'apôtre Paul révèle plusieurs domaines qui sont strictement des problèmes, pas strictement des problèmes de chez les Éphésiens, hein, c'était, on peut les retrouver encore aujourd'hui. Hein, 2000 ans plus tard, on retrouve encore ces problèmes. Il a dit d'abord renoncer aux mensonges. Il dit de ne pas se mettre en colère. Et il dit de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Il nous dit de veiller sur notre bouche, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de faire disparaître toute amertume qui peut mener jusqu'à la méchanceté. Remarquez dans ce passage que l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il traite d'un quelque chose qui caractérise la vie passée, il dit « tu arrêtes ça », mais il nous propose quelque chose, il propose de le remplacer. C'est un peu pour ça que j'ai choisi comme titre de mon message, c'est « amputation et greffe ». Vous prenez un arbre sauvage, et bien si vous voulez des bons fruits, et bien, il faut d'abord couper les branches, et ensuite on greffe des bonnes branches pour avoir du bon fruit. Et dans notre vie, le Seigneur a dit, mais nous sommes comme des arbres, et comme nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun, eh bien nous observons le fruit. Eh bien ici, si on veut du bon fruit, il a dit d'abord une amputation, hein, si vous coupez, enlevez, et puis remplacez par autre chose. C'est un principe dans la vie chrétienne. Vous savez, souvent les religions, ils disent, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, et on coupe, et il ne reste rien. Et on ressemble à une souche. Mais il dit non, c'est pas une question de tu coupes tout et tu te prives de tout. Parce que c'est pour ça que les religions, si on les pratique vraiment à fond, c'est vraiment triste. Mais Jésus-Christ, il nous dit tu enlèves cela et tu le remplaces et en général. Toujours, on le remplace par quelque chose de meilleur et plus agréable. Ce qui rend notre vie chrétienne beaucoup plus agréable. Et finalement, ce n'est pas triste d'être chrétien, c'est agréable, parce que nous avons remplacé ce qu'on a enlevé par quelque chose qui soit à la gloire de Dieu, et puis beaucoup plus agréable pour ceux qui nous entourent aussi. Vous allez même dans le monde, vous prenez le gars qui dit « moi je crois en rien du tout », vous dites « est-ce que si j'arrête de mentir, ça t'arrange ?» Il dit « oh oui, oui ». Si je m'arrête de me mettre en colère, ça t'arrange ?« Oui, 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 oui ». Si j'arrête de prendre ce qui ne m'appartient pas, ah si, bien sûr, toujours. Et puis de surveiller ma bouche, il dit non, pas de problème. Et puis, vous savez, c'est agréable pour tous et pour les enfants de Dieu, et c'est à la gloire de Dieu. Donc, nous allons prendre chacun de ces situations et les prendre un à la fois, pas être exhaustif dans l'étude, mais quand même voir que ça ne correspond pas à la vie du chrétien. Donc c'est ce principe de se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir l'homme nouveau. Hein, c'est ça le principe. Donc c'est ça, et là, c'est pratiquement. Là, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était théorique. Maintenant, aujourd'hui, c'est la pratique. Hein. Donc d'abord, il nous dit... Il parle du mensonge. Il dit, je vais dire, amputer le mensonge de sa vie. Le verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, le mensonge caractérise la vie passée. Pour ceux qui sont sans Dieu, le mensonge leur rend service. Et ça caractérise aussi ce qui appartient à notre ancien maître, le diable. Jésus, vous savez ce que Jésus a dit du diable? Il n'avait pas des compliments pour lui. Il a dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà ce qu'il dit du diable. Il dit ça, le diable, il est menteur, et même quand il dit la vérité, il est en train de tromper. C'est sa nature. Et on ne peut pas faire autrement. Et lorsque je mens, et lorsque j'ai cette habitude de mentir, ben finalement, je montre que je fréquente l'ennemi de nos âmes. Le ciel n'est pas pour les menteurs. Les menteurs seront mal à l'aise au ciel. Ne croyez pas. Si j'ai un problème de mentir, il vaut mieux pas que j'aille au ciel, parce que je serai vraiment mal à l'aise. Même il nous dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 8, il nous dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre ce qui est la seconde mort. » Il dit « Les menteurs, le ciel, ce n'est pas pour les menteurs. Au ciel, il n'y a que la vérité. » Autant il n'y aura pas de souffrance, autant il n'y aura pas de pleurs, et il n'y aura pas de mensonges. Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement l'habitude de mentir, même quand il n'a pas besoin de mentir, il ment quand même. Hein, ça devient tellement naturel. Et vous savez, notre société, ce n'est pas moi qui ai besoin de vous le dire, mais notre société est tellement marquée par le mensonge. Alors, on est tellement habitué, même la moitié du temps, on ne fait même pas attention. Et puis on dit, bon, c'est comme ça. Mais vous savez qu'il y a tellement de mensonges que si jamais, d'un jour à l'autre, tout d'un coup, on arrêtait tous les mensonges et on corrigeait tout, on mettait la vérité, ce serait la catastrophe sur notre terre. Du point de vue économique, ça casserait tout. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont basées sur de la tromperie, du mensonge. La politique, alors là, n'en parlons pas. Mais ça serait une troisième guerre mondiale si jamais, tout d'un coup, on s'arrêtait de mentir. Parce que là, il y a tas de choses qui s'arrêtent, qui ne fonctionnent plus. Il faut corriger, il faut reconstruire, il faut tout refaire. Tellement de choses sont basées sur le mensonge, la tromperie et autres. Et ça nous coûte très cher aussi. Hein. C'est ce monde. Mais dites-vous qui êtes enfants de Dieu, et bien maintenant vous êtes devenus citoyens du ciel, et bien vous vivez selon les lois du ciel, même si vous avez les pieds encore sur terre. Il emploie le mot « renoncer ». Au mensonge. En fait, si vous aviez votre Nouveau Testament grec, eh bien, vous verrez que le mot « renoncer » ici, c'est le même que celui qui est traduit plus haut par « dépouiller ». Hein, verset 21, là où il dit « dépouiller »,« enlever », eh bien, finalement, c'est la même chose là. Il dit « dépouiller »,« enlever », le mensonge de votre vie. Et nous sommes appelés, pas seulement à arrêter de mentir, mais de commencer à dire la vérité. Et dire que la vérité. Et vous savez que si... et vous avez besoin de devenir... que soit connu par tous ceux qui vous entourent comme quelqu'un qui dira toujours la vérité. Ça va les embêter. Ah, c'est sûr. Et tout d'un coup, ils vont commencer. Il y a des choses qu'ils ne vont pas vous dire. Ils ne vont pas vous inviter à certaines choses. Vous n'allez pas être au courant de certaines choses. Parce que vous dites toujours la vérité. Si jamais le patron il vous demande, vous allez le dénoncer. Alors, il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Je me rappelle quand j'ai fait un camp non chrétien, j'ai fait un camp avec des jeunes. Je leur dis, écoutez, moi, c'est la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Donc, si vous ne voulez pas que je dise ce que j'ai vu, alors vous vous débrouillez que je ne le vois pas. Mais moi, je dis la vérité. J'établis ça au début du camp, et puis c'est à eux de se débrouiller. Ce n'était pas à moi de changer mon mode de vie, c'est à eux de voir comment ils peuvent faire. Et vous savez, une fois qu'on devient connu comme quelqu'un qui dit toujours la vérité, après, ils commencent à compter sur vous aussi. Hein, parce qu'ils disent, bon, je vais aller voir un tel, là, il me dira exactement de quoi il s'agit. parce qu'il sait qu'il dira la vérité. Il faut que nous ayons cette réputation. Autant on aime dire de Dieu qu'il dit toujours vrai, de Jésus, vous ne pouvez pas imaginer Jésus raconter un mensonge. Mais il ne faut pas que ses disciples non plus racontent des mensonges. Et après, vous savez, je n'ai jamais trouvé dans la Bible des petits mensonges blancs. Il ne dit pas des mensonges blancs, des grands mensonges, des petits mensonges, des mensonges mignons. Parfois je dis bêtises, hein, je lui dis, Zaya, tu as 25 ans, n'est-ce pas? Elle me dit, bon non, je sais que ce n'est pas vrai, parce qu'elle a 28 en fait.
27.
Mais bon, ça c'est autre chose, hein, ça c'est la plaisanterie. Mais sinon, ces mensonges sur lesquels les gens les entendent et puis comptent dessus, et puis ils risquent de les répéter. Et s'ils répètent mon mensonge, moi je les fais mentir. Et ça après, vous savez, et puis une fois que c'est sorti de la bouche, vous ne contrôlez plus où ça va. Hein. C'est parti. Hein, c'est comme un oiseau qui a été lâché. Ça y est, il est parti. Et donc, nous devons faire très attention. Il nous dit, Paul ne veut surtout pas que les chrétiens mentent. Et vous avez vu la raison pourquoi il l'a dit? Il n'a pas dit parce que ce n'est pas bien. Il a dit parce que vous êtes membres d'un même corps. Imaginez votre corps, hein, vos yeux qui jouent avec la main. Et qui lui raconte n'importe quoi. Hein, et au lieu de diriger la main pour qu'elle prenne un fruit, il le dirige vers autre chose et puis il se fait couper. Il dit non, jamais. Non, oui, mais les membres, dans votre corps, vous espérez que vos membres ne mentent pas les uns aux autres. C'est le problème, vous connaissez la lèpre. La lèpre, pas la lèpre de la Bible, c'est une maladie de la peau. Hein, donc. Mais la lèpre d'aujourd'hui, la lèpre moderne qu'on trouve dans certains pays, c'est une maladie nerveuse. C'est les nerfs qui vont, dans les extrémités, deviennent plus sensibles. Et ces personnes, finalement, elles se font mal, mais elles ne sentent rien. Elles saignent, ils peuvent prendre un coup, ils ne sentent rien du tout. Ils prennent la casserole brûlante. Et puis il prend, et puis ouais, il sent rien. Mais en fait, il est en train de se faire des dégâts, il est en train de brûler. Ça, c'est où, quelque part, il y a un mensonge avec un membre. Mais c'est la même chose. Il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, parce que vous êtes membres d'un même corps. Donc, l'enfant de Dieu qui continue à mentir, eh bien, ou il ne fait pas partie du corps, il est en train de dire, moi, je ne fais pas partie du corps, donc je suis libre, ou bien, il est... Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il est malade. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc l'enfant de Dieu ne doit pas mentir. Et le principe, c'est de retirer le mensonge et le remplacer par la vérité. Et... ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire tout ce qu'on sait chaque fois, mais c'est que ce qu'on dit soit vrai. Et qu'on le dise de telle manière que l'autre comprenne ce qui est vrai. Hein, des fois, on dit des choses qui sont vraies, mais on l'a dit de telle manière que l'autre, il comprend autre chose. Bon, ça, c'est un autre problème. Je ne vais pas développer le problème du mensonge, mais on sait ce que c'est. Ensuite, il passe à la colère. Il dit, ne vous mettez pas en colère. Non, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez... Parce qu'il y a une colère, qui est normale, qui finalement sert l'homme. C'est celle qui nous donne du courage pour agir contre l'injustice. Ou dans la défense des autres. Quand on voit une injustice, ça me brûle, on intervient. Mais ça, c'est une colère qui va dans le bon sens, parce qu'elle est là, elle me donne le courage d'intervenir dans la vie de quelqu'un pour la protéger, pour la défendre, devant l'injustice. Ça, c'est une juste colère, et des fois, vous le sentez, vous entendez une nouvelle, et alors, ça bouillonne en vous, si ce n'est pas juste. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis quand on se met en colère pour la cause de Dieu, on dit non, c'est injuste que ces choses se passent, il n'y a pas de problème. Mais c'est la colère égoïste. Quand je me mets en colère pour moi, parce que je cherche mes intérêts, je défends mes intérêts. Et c'est là où il y a tendance à ce que ça devienne injuste. Hein, parce que parfois, c'est souvent exagéré. Et puis après, dans l'exagération, après, on commence à démolir autrui. Vous savez, hein, quand on se met en colère, on commence à... Et puis malheureusement, c'est que des fois, après, alors qu'on avait peut-être des mauvaises pensées contre quelqu'un, mais tant qu'on était calme, on arrivait à les retenir et garder. Mais si jamais la colère se déclenche, après tout ce qu'il y a là-dedans, ça sort. Et puis on dit des choses qu'on ne peut plus rattraper, mais qu'on regrette. Et après, il faut réparer, et c'est embêtant. Et malheureusement, dans la colère, vous savez, ceux qui en souffrent le plus, ce sont ceux qui sont autour de nous et qu'on prétend aimer. Hein, souvent, ceux qui sont proches de nous. Les victimes sont ceux qu'on aime et ceux pour qui, si jamais quelqu'un les touchait, on serait les premiers à les défendre. Combien de fois ça arrive dans le couple, ça arrive dans une famille, ça arrive entre frères et sœurs. Mais c'est égoïste. Mais vous savez ce qu'il nous dit ici? Il dit d'abord, si vous avez cette colère-là, essayez de la régler avant le coucher du soleil, c'est-à-dire ne laissez pas durer. Ça ne veut pas dire attendez jusqu'au soir pour la régler. Ça veut dire régler vite, le plus tôt possible, pour limiter les dégâts. Et puis il nous dit surtout, fais attention parce que ça donne accès au diable. Parce que quand je suis en colère, je me contrôle moins, lui rentre là-dedans, c'est comme une porte ouverte, lui rentre là-dedans, et puis vous savez, il sait quoi faire. Hein. Et puis tout d'un coup, il me rappelle tous les péchés de l'autre personne, et il me rappelle tous les défauts de l'autre personne, et puis que ça commence à sortir, et puis après... Et puis après, lui, il ricane à côté parce qu'il a mis la zizanie. Ça lui plaît. Et donc... faisons attention avec la colère. Plutôt avoir cette colère légitime, la vive réaction contre le mal, la vive réaction contre une atteinte au nom de Dieu. Ça c'est autre chose. Et personne ne vous reprochera ça. Hein, t'entends le collègue qui dit n'importe quoi sur Dieu, il dit arrête. Moi je crois en Dieu et c'est quelqu'un que je respecte. Alors fais attention à ce que tu dis. Ça ne lui arrive pas souvent. Ça va, il dit oh, excuse-moi. Il va se reprendre. Il y a des choses, ça ne me regarde pas. Mais là, tu ne touches pas à mon Dieu. Vous savez, on a le droit. Le monde trouve normal qu'on réagisse. Hein, si quelqu'un parle de ma mère. J'ai le droit de réagir, de dire, écoute, c'est ma mère, hein, tu fais attention à ce que tu dis. Là, il trouve normal, même vous pouvez lui mettre quelque chose dans le nez, il trouve normal. Mais oui, mais Dieu aussi, je l'aime. Et fais attention à ce que tu dis concernant Dieu. Tu peux ne pas croire, ça c'est ton choix, mais tu n'as pas le droit de parler en mal de mon Dieu. Écoute, quand vous le faites deux, trois fois, vous aurez une réputation. On n'est pas obligé de réagir comme réagissent certaines religions, hein, mais je crois qu'il y a un respect. Hein, et la liberté de presse, ça va jusqu'à un certain point, mais normalement, il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Des choses qui sont sensibles à quelqu'un d'autre, on doit faire attention. Je suis pour la liberté de la presse, mais je suis aussi pour le respect. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'y crois pas que tu peux dire n'importe quoi. Ensuite, il dit que celui qui est dérobé, au verset 28, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il dit que celui qui est dérobé ne dérobe plus. C'est-à-dire, il parle d'un arrêt brutal, hein, arrêt total. Il ne dit pas, tu diminues, essaye de, bon, un peu, quand tu voles, vole pas aussi gros, hein, vole. Non, non, tu arrêtes complètement de voler. Hein, on dit bien en français, hein, vous connaissez le dicton, hein, ce qui vole un œuf, vole un bœuf. On est autant voleur quand on prend et dit, bon, c'est pas pour dire que autant voler, puisque c'est du vol, alors je prends un bœuf. Non, non, c'est question de ne pas voler du tout. Hein. Ici, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Le remplacement remplace, il vole, arrête de voler, travaille. Ça peut être difficile, hein, pour celui qui vit de cela. Hein, ça c'est un changement de vie, là. Tout d'un coup, il arrête là et il faut qu'il trouve un autre moyen de vivre. Mais bon, il y a beaucoup qui vivent du vol, plus qu'on le croit. Parce qu'il y a du vol légal, comme il y a du vol qui n'est pas légal. Hein, mais c'est, bon, ça, c'est autre chose. Mais là, vous savez que là où il y a du vol, il y a forcément du mensonge. Hein, je ne connais pas beaucoup de voleurs qui ne mentent jamais. Mais venir à Christ, eh bien, ça entraîne un changement radical. Et quand on parle de voleurs, on ne parle pas seulement des pickpockets du métro parisien ou des auteurs de hold-up. Bon, je pense qu'il n'y a personne ici qui a fait ça encore dans une banque. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais c'est aussi celui qui ne paye pas ce qui est dû. C'est-à-dire, vous savez, dans le septième commandement de Moïse, que Dieu a donné à Moïse, c'est dit « tu ne voleras point ». Le commandement n'a pas été donné seulement pour protéger ceux qui ont, mais c'était aussi pour protéger ceux qui n'ont pas. Parce que des fois, le pauvre, il se trouvait, ben, on ne le payait pas. Et puis comme il est pauvre et faible, eh bien, il supporte et il ne peut rien faire. Tu dis non, non, tu ne voles pas. C'est-à-dire, ce que tu dois lui donner, tu lui donnes, sinon c'est du vol. Et puis tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Dieu est juste et protège les deux, celui qui a et celui qui n'a pas. Et il dit, écoute, ne vole plus, mais travaille. Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et puis un peu plus loin dans le même chapitre, hein, donc 2 Thessaloniciens 3, 10 et puis maintenant 12, il dit « Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Il dit « Si tu as la santé et la force pour voler, certainement que tu as la santé et la force pour travailler. Hein, » parce que c'est quand même, ça demande un effort. C'est pas en restant au lit pendant la nuit qu'on devient voleur. Le mat, c'est celui qui sort, le voleur, c'est des gens actifs. Hein. Il dit, si tu sais voler, tu sais travailler. Alors, travaille plutôt. Et c'est vrai que tout le monde peut passer par des moments difficiles. Hein. On a des temps difficiles, on a des temps... Et donc, c'est pour ça qu'il dit que celui qui a le travail, il dit, travaille et demande au Seigneur de te donner du travail pour que tu puisses même aider quelqu'un qui passe par un moment difficile. Si tu gagnes plus, c'est pas pour en avoir plus, c'est pour pouvoir aider quelqu'un d'autre peut-être. Vous savez, le communisme et le socialisme, ils étaient fiers d'eux parce qu'ils croyaient que c'était les premiers qui avaient pensé à ce principe où les uns aident les autres. La richesse des uns, ça aide les autres. Non, non, c'est dans la Bible depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ils n'ont rien inventé. C'est aux enfants de Dieu de se comporter. Vous savez, dans l'église primitive, vous lisez dans Actes chapitre 2, 3, eh bien, les gens apportaient ce qu'ils avaient, ils apportaient, et puis ils nourrissaient ceux qui n'avaient pas. Ça existe depuis toujours dans l'église de Jésus-Christ. C'est le principe de la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Christ. Christ a donné, il a donné. Et on lui apporte un petit casse-croûte avec 5 pains et 2 poissons pour lui, et lui distribue à tout le monde. Et finalement, tout le monde a bien mangé aussi. Hein? Donc, c'est le principe. Et donc, dans l'Église, nous devons penser comme cela, pas comme le monde. Le monde, c'est j'accumule. Et j'en ai plein, et j'ai une maison avec 25 chambres, même si moi je dors dans un seul lit seulement, et dans une chambre à la fois. Hein, mais j'aime bien, j'ai 25 chambres. Mais tu vas faire avec 25 chambres? Il y en a un autre qui est dans un petit placard, il dort. Arrêtez le vol. Et puis ensuite, il y a la parole. Oh là là. Jacques, chapitre 3, il parle de la langue. Il dit, la langue, si tu arrives à dompter la langue, tu domptes tout ton corps. Et il devait y avoir des problèmes à l'époque. Mais je pense qu'on l'est là toujours. Hein, là, il n'y a pas eu de vaccin contre ça. Paul sait combien de souffrance et de mal peut être causé par une parole mauvaise qui sort de la bouche. Lui, il dit, écoutez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot mauvais, c'est le mot grec, c'est le mot pour corrompu, infect, gâté, pourri. Hein, c'est les légumes pourris. C'est ce sens-là, il dit des paroles, mais de cette nature-là. C'est révoltant, c'est désagréable, c'est comme du fruit avarié. Il a dit ces paroles-là qui ne sortent pas de votre bouche. Jésus a dit à son époque, dans Marc chapitre 6, verset 45, il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ça sort de la bouche, c'est parce que c'est dans le cœur. Alors, si je veux m'assurer que seules des bonnes paroles sortent de ma bouche, eh bien, il faut que le cœur soit rempli de bonnes pensées. Hein? C'est pas la faute de la poubelle hein, si ça sent mauvais. C'est la faute de ce qui est dans la poubelle. Il suffit de changer ce qu'il y a dans la poubelle et puis ça sent bon. Hein? Philippiens, Paul écrit aux Philippiens, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors là, vous voulez un filtre? Il faut filtrer à l'entrée et filtrer à la sortie. Hein, pour vraiment empêcher que... Il dit, mais tu sais, si c'est pas vrai, écoute, n'y pense même pas. Si c'est pas utile, si c'est pas aimable, si c'est pas juste, si c'est pas honorable, si c'est pas quelque chose que tu peux dire n'importe où, devant n'importe qui, sors-le de ton cœur. Dites, wow, mais on est appelé à ressembler à Jésus, non? On veut la vie de Jésus, mais on ne veut pas être comme Jésus. Hein? On veut manger comme des rois et vivre comme des bandits. Ça ne va pas. Il dit, le remplacement de ce qui aurait pu être une parole, j'emploie le mot puante, hein, parce que c'est des paroles mauvaises. Il dit, c'est une phrase, plutôt que d'une parole comme ça, il dit plutôt, dis quelque chose qui soit édifiant. Édifiant, ça veut dire que ça apporte quelque chose à la personne. La personne se sent mieux, la personne est encouragée. Il dit, plutôt de dire quelque chose qui démolit, quelque chose qui rabaisse, quelque chose qui décourage. Vous savez combien ont souffert ces enfants qui ont grandi dans un foyer où on leur a dit, mais tu es nul, tu sais rien faire, dégage, tais-toi, puis... Vous savez, ils arrivent à la vie adulte, oui, ils ont l'âge adulte, mais ils ont des problèmes comme ils ne savent pas quoi faire avec. Ça détruit, ça détruit une vie, et à vie, ils souffrent. Mais si j'ai une parole édifiante, si j'ai une parole d'encouragement, oh, même juste une parole, la personne se sent tellement mieux. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si les gens vous répondent, ils disent « T'as dit quoi? Répète un peu. Ça me fera du bien, je veux l'entendre. » Alors là, c'est, Vous savez, ils en ont besoin. Les gens apprécient une parole encourageante, édifiante. Et que nous devons être caractérisés. Quand il nous a dit de nous dépouiller de l'homme ancien et de revêtir l'homme nouveau, c'est que ça touche tous les sens. Et après, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Il dit, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la demeure du Saint-Esprit. Jésus, en partant, il avait dit aux disciples, on l'a vu dans Jean chapitre 14 et 16, il avait dit, je m'en vais et je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui demeure avec vous et qui vous enseignera mes paroles, qui demeurera éternellement avec vous. Et puis, il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, c'est que le Saint-Esprit est le sceau. Si, il nous marque, il est présent là, il est la marque. Tout le monde sait que nous appartenons au Seigneur parce que le Saint-Esprit est là. Et celui qui le remarque surtout, c'est Satan. Et nous sommes marqués, ce sceau qui sera nécessaire pour le jour de notre rédemption. Parce que ce sont ceux qui sont marqués de ce sceau, qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ceux qui ont fait du bien, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Il dit, donc ne l'attristez pas. Il est de votre intérêt qu'il soit là, il est là. Et puis, je vais ajouter que le Saint-Esprit n'est pas une idole, hein, on est temple, mais il n'est pas une idole de pierre ou de métal précieux. Il n'est pas une pensée non plus, il n'est pas une force, comme disent certains. Il n'est pas un principe, mais il est une personne. C'est pour ça qu'il est attristé. S'il était une force, on ne pourrait pas l'attrister. S'il était une idole, on ne pourrait pas l'attrister. Les idoles, ils gardent leur sourire, peu importe ce qu'ils fassent et ce qu'on leur dit. Mais lui, il peut être attristé. Il peut être attristé. Et vous savez, les sentiments du Saint-Esprit sont étroitement liés avec ceux que nous aurons. S'il est triste, nous serons tristes. S'il est heureux, nous sommes heureux. Parce que notre vie dépend de lui. Hein, c'est, on dit de la maman dans une maison, elle fait la pluie, le beau temps dans une maison. Si la maman elle va bien et qu'elle est en forme, et puis la maison ça tourne bien. Et si elle va pas bien, la maison a des problèmes. Mais c'est pareil, le Saint-Esprit, s'il est en nous et s'il vit et il a moyen de s'exprimer, eh bien moi je me sentirai bien, la maison sera beaucoup plus gaie. Ma vie personnelle, ma foi. Mais toute désobéissance volontaire, et puis en particulier les choses dont on parle ici, hein, c'est pour ça qu'il a mis ça là-dedans, c'est à cause de ces choses, le mensonge, le vol, les paroles, tout ça, il a dit tout ça. Vous savez, il dit, si vous ne faites pas attention avec ça, ben, vous attristez le Saint-Esprit. Et s'il est triste, vous serez triste. Et vous pouvez chanter Alléluia avec la bouche et dedans être triste. Ça existe, hein. Vous connaissez les gens qui ils ont un beau sourire, un peu de maquillage sur la peau, et puis un sourire, et dedans, ils sont... Hein, on ne veut pas ça. C'est vital pour nous qu'il ne soit pas triste. Puis alors, ça, ce dernier verset, c'est dommage que j'aille si rapidement, on pourra peut-être le revoir, mais au verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Jusque-là, ce qu'on a vu, c'est des comportements. Hein, les paroles, le vol, tout ça, c'est des comportements, c'est des expressions physiques. Mais là, il est en train de parler de l'état intérieur. Il parlait d'un état intérieur. L'amertume, c'est quelque chose qui est dedans et que souvent on arrive à cacher, hein, surtout si c'est pas trop vieux. Mais ce qu'il est en train de dire, en fait, il donne une liste là, mais en fait, l'amertume, eh bien, si je ne le soigne pas, si je ne corrige pas, si je ne pardonne pas, si je ne règle pas, eh bien, ça devient de l'animosité de la haine. Hein, quand quelqu'un, j'ai de l'amertume contre quelqu'un, éventuellement, je commence à pas supporter la personne, et je commençais à penser du mal de la personne, et un peu la haïr, et puis quand je suis en présence d'elle, ça me dérange. Mais c'est parce que l'amertume n'est pas réglée, donc ça devient de l'animosité, et après la personne elle fait quelque chose, et parce que je n'ai pas de bonnes pensées envers elle, tout d'un coup je me mets en colère, ça éclate. Et après la colère, eh bien, il dit, après, c'est les calomnies, les clameurs, c'est les cris. Et après, c'est les calomnies, parce qu'après, je crie, je commence à dire des choses pas gentilles, et je commence à dire des choses que je ne devrais pas dire sur la personne, et je fais ressortir peut-être des défauts que personne ne connaît, mais je dis tout ça, c'est pour lui faire mal. Et puis après, bien sûr, ça devient toute espèce de méchanceté. Il dit, si tu ne le règles pas au début, eh bien, ça va aller jusqu'au bout, et ça deviendra des actes. Donc, règle-le déjà. Ce qui est dans le cœur, eh bien, un jour, ça va sortir si tu ne soignes pas. Et il dit, en fait, plutôt que d'entretenir l'amertume qui peut mener très loin et créer des problèmes au milieu de vous, eh bien, il dit au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout un autre comportement. Mais ça vient du cœur, c'est quelque chose qui est là. Être bon, compatissant, pardonnant réciproquement. Et puis, c'est pas pardonner n'importe comment, il a dit pardonner comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez pas comme les hommes pardonnent, pardonnez comme Dieu vous a pardonné, comme il vous a pardonné. Est-ce que son pardon était total? Est-ce que son pardon était gratuit? Est-ce que son pardon était offert? Et bien alors, il dit, faites pareil. Hein? On pourra peut-être un jour traiter la question de pardon, mais il dit, si toi tu ne sais pas pardonner, moi non plus je ne pardonne pas. Vous savez, dans la prière de Notre Père, tout le monde connaît combien c'est récité des milliers de fois, des millions de fois, chaque dimanche dans le monde entier. Du matin au soir, hein, au fur et à mesure que le soleil avance, les Notre Père, ça monte. Mais vous savez, dans le Notre Père, il y a marqué « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Et après, vous lisez après cette prière, et la seule chose que Jésus a relevée pour expliquer de tout ce qui est dans cette prière, c'est si vous ne vous pardonnez pas, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Ça veut dire que c'est important. C'est pas juste là pour faire joli, mais c'est du vrai. Et c'est sérieux. Ça fait partie. Hein, si je suis un enfant de Dieu, eh bien je dois me dépouiller de l'homme ancien et puis revêtir l'homme nouveau, celui qui est en Christ et celui que Christ me propose. Et c'est cette vie-là. Et c'est lorsque je le fais, hein, c'est pas que j'ai un manche d'un manteau et puis l'autre manche de l'autre manteau, ça ne va pas. C'est ou l'un ou l'autre. Et le Seigneur veut. Et remarquez que dans ce dernier passage, il n'a pas parlé des circonstances. Les circonstances sont les mêmes. C'est les mêmes circonstances, les mêmes problèmes, on vit avec les mêmes personnes. Mais ou tu laisses l'amertume développer, ou bien tu as de la bonté, de la compassion. Mais les circonstances, c'est les mêmes. Le problème n'est pas les circonstances, le problème, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui entraînera des réactions. Ou des comportements méchants, ou un comportement agréable, du pardon, de la compassion. C'est à nous de choisir. Hein, ça dépend comment nous voulons vivre. Donc, voilà. Pour celui qui est en Jésus-Christ, et c'est la vie que Jésus veut, ce qu'il désire, et qui finalement est normal. Hein, et vous demandez à n'importe qui dans le monde, il vous dit oui, bon, non, mais un chrétien, c'est ça que ça devrait être. Hein, un vrai chrétien, c'est ça. Oui, ils sont d'accord, tout le monde le sait, et même nous le savons. Mais malheureusement, souvent, c'est les chrétiens les derniers à le faire. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ces rappels. Bien sûr que nous les savons, on n'a rien dit de nouveau ce matin. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'il faut se contrôler dans sa colère, qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas... On le sait, mais Seigneur, c'est d'autant plus vrai quand on est enfant de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre cela. Et si nous avons la vie éternelle, eh bien nous la vivons. Et nous vivons de telle manière. Hein, que notre témoignage ne soit pas strictement le fait qu'on ait prié il y a quelques années, mais que notre témoignage soit le fait que Christ soit visible en nous, et sa présence soit évidente dans notre vie de chaque jour. Père, tu connais chaque cœur, et ce n'est pas moi qui puisse dire aux autres comment être, c'est toi qui nous parles à chacun. Et nous avons besoin d'entendre. Père, viens à notre secours, aide-nous. Pardonne-nous déjà nos manquements et aide-nous cette semaine à remporter des victoires à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.